Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui avec nous, chance, nous avons Denis Martin Chabot pour sa chronique Planète Arc-en-Ciel. Bonjour Denis Martin.
Bonjour, comment vas-tu?
Ben, je vais très bien. Tu as reçu Yannick Villedieu. On va en parler dans un instant, c'est pour un livre qui t'a passablement bouleversé.
Oui, oui. C'est ça? Qui s'appelle Le Deuil et la Lumière.
On en parle dans un instant. En deuxième partie d'émission, nous parlons avec John Lachlan Stewart, j'espère que je prononce bien son nom, qui a écrit et mis en scène la pièce de théâtre Jonathan, la figure du goéland, qui va être présentée du 23 novembre au 11 décembre à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier. Très intéressant, tu vas voir, c'est vraiment passionnant ce qu'il a fait. Pour l'instant, on part en musique avec Seou qui nous chante T'es Moza.
Nas peripécias do amor
teimosa,
as maluquices que eu fiz
teimosa,
os argumentos que eu dei
pifaram,
e as previsões que eu lancei
falharam.
Se trata de amor,
teimosa.
Tem que saber perdoar,
teimosa.
Mas se quer infernizar meu sossego, juro. Que eu fiz
teimosa,
os argumentos que eu dei
pifaram,
e as previsões que eu lancei
falharam.
Quando se trata de amor, saber perdoar,
teimosa.
Mas se quer infernizar meu sossego, juro por Deus, peço arrego. Juro por Deus, peço arrego. Juro por Deus, peço arrego. Juro por Deus, peço arrego.
Alors Denis Martin, on commence avec toi. Donc comme on en parlait tout à l'heure, tu as lu un livre qui t'a touché beaucoup. Et puis on peut dire aussi que bah, ça tombe à pic, hein, parce que le 1er décembre, c'est la journée mondiale du VIH.
Oui.
Donc VIH-SIDA, donc tu vas nous parler de ce livre. C'est un livre sur le deuil et sur la lumière.
Oui,
alors deuil et la lumière, c'est tellement beau ces deux mots joints ensemble, de Yannick Villedieu.
Oui. Alors, c'est vraiment un livre qui relate l'histoire du VIH depuis 40 ans. Yannick Villedieu a été journaliste scientifique à Radio-Canada. On l'a entendu pendant longtemps au micro, à la barre de l'émission Les Années-Lumière qu'il animait. C'est un passionné des sciences, passionné des faits, un amoureux des gens. une personne qui était donc toute désignée pour couvrir VIH. On ne savait pas à l'époque, hein, ça commençait. Alors, on a vécu et on vit encore la science en direct à propos du VIH. C'est la première pandémie, tu sais, qui a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, la deuxième étant la pandémie de coronavirus qu'on connaît maintenant. Le VIH, le sida, a fait 30 millions de morts dans le monde depuis 1981. Et 20 000 au Canada. C'est le 81. Pourquoi je parle de cette date? C'est l'année qu'on a découvert que cette maladie-là. Ça existait avant, on va l'apprendre. Alors, Yannick a couvert le VIH en tant que journaliste scientifique depuis le tout début. C'était une maladie très inquiétante au début. Hein? On n'en connaissait pas la cause.
Oui, puis on ne savait pas comment ça se transmettait non plus.
Donc, en 1981, le Mortality and Morbidity Weekly Report parlait de ces hommes gays qui présentaient des maladies pourtant depuis longtemps contrôlées. Alors, il fallait vraiment avoir un système immunitaire là, complètement déficient pour que ces maladies vous attaquent. Et là, le nombre est parti en flèche. Et puis, ben voilà. Alors, c'est à ce moment que Yannick Villedieu, jeune journaliste, entre en jeu. Il hérite d'un dossier, un dossier qu'il traitera de près pendant toute sa carrière.
Alors, on entend.
La particularité du sida, c'est que ça a été une histoire qui s'est vécue en direct, mais de façon très, très, très intense. Aussi bien, par exemple, Gallo, l'Américain, et Montagnier, le Français, la querelle sur la découverte du virus, c'était incroyable, la bataille qu'il y a eu pendant des années. Donc, il y avait ça. Et oui, j'ai rencontré des gens extraordinaires. À Montréal, bon, Régent Thomas, Mark Weinberg, qui est décédé accidentellement il y a quelques années, qui a été un des grands... d'ailleurs, j'ai une citation de lui au début du livre, hein, « Nous devons tous être des activistes du sida ». Et ça, c'est un scientifique qui dit ça, c'est pas un activiste. Il dit « Oui, c'est un devoir pour nous ». Alors, j'ai rencontré tous ces gens-là, Peter Piot, qui a été le grand patron de NUSIDA pendant plusieurs années, Françoise Barré-Sinoussi, qui a eu le prix Nobel pour la découverte du virus, etc. Donc, on avait accès à des gens très, très importants, mais qui étaient eux aussi tellement sur la ligne de feu qu'on pouvait leur parler, avoir des interviews. Peter Piot, je me souviens, on était dans les conférences mondiales du sida, qui étaient des événements extraordinaires, hein, d'une intensité incroyable. Et bien, Peter Piot arrivait toujours, j'arrivais toujours à lui prendre 5 minutes, 6 minutes pour avoir un bout d'interview en tête à tête. Alors, c'était ça vraiment, cette ambiance de, à la fois, bon, menée par les activistes, les patients, qui voulaient que quelque chose se passe au fond, et les chercheurs et les médecins qui étaient souvent des jeunes et qui embarquaient avec eux, parce que comme quelqu'un me disait, c'était des gens de mon âge qui mouraient, qui avaient la maladie et qui mouraient dans des conditions, on se rappelle dans les années 80 jusqu'à 1996, les gens mouraient dans des conditions très 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 difficiles. Alors on était dans ce drame, dans cette histoire-là qui se vivait intensément à tous les niveaux. Les activistes, les patients, les chercheurs, les grands chercheurs, tout ça a été brassé ensemble avec une volonté aussi de faire bouger les choses au niveau politique. Ça a été aussi, le sida, une maladie politique. Et ça l'est encore d'ailleurs.
Oui, parce que ça a pris beaucoup de temps avant que certains politiques, que je ne pourrais pas les nommer, Ronald Reagan en premier, s'investissent et fassent quelque chose, parce qu'au départ, il y avait les bonnes et les mauvaises personnes qui vivaient avec le VIH.
Oui, alors c'est sûr. Ronald Reagan, qui était président des États-Unis dans les années 80, la première fois où il va parler, où il va dire le mot AIDS, SIDA en public, c'est à la veille de la conférence de San Francisco, je pense en 90. Et il a rien dit de ça avant, parce que c'était une maladie, effectivement, une maladie des homosexuels, des drogués. C'était une maladie honteuse, c'était une maladie dont on voulait pas parler. Et effectivement, les autorités politiques ont mis du temps à embarquer, et c'est grâce à l'action soutenue des activistes de groupes comme ACT UP et autres que, effectivement, tout à coup, ça a changé et que c'est devenu aussi un exemple de solidarité internationale. La création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui est un fonds qui allait chercher des milliards de dollars pour la recherche et pour amener le traitement dans les pays pauvres, c'est quand même extraordinaire qu'un fonds comme ça ait existé, ait été créé au niveau de l'ONU, au fond. Et donc, je pense que c'est ça qui était très intense, qu'on a vécu pendant toutes ces années-là.
En tout cas, on sent la passion du journaliste devant cette histoire importante, hein, qui a marqué le monde et puis qui le marque encore aujourd'hui.
Oui, alors on le ressent dans le style du livre. C'est écrit comme un reportage et en même temps, ça se lit comme un suspense. Moi, j'ai lu ce livre-là de 350 pages en 2 jours seulement
Wow.
et ça vient nous chercher par bout. En fait, j'ai des exemples. Vous vous rappelez l'histoire tout à fait sans fondement de ce fameux patient zéro. C'est un
Oui.
agent de bord québécois, Gaétan Dugas, qui était très malade, que le journaliste américain Randy Shields, qui était lui aussi atteint du VIH, qui en est mort aussi, avait accusé d'avoir été le vecteur premier du VIH à New York, de New York à Los Angeles. Mais le pauvre homme, là, est mort très malade et dans la disgrâce. On lui attribuait des intentions méchantes d'avoir sciemment propagé le virus. Et on voit là, l'œuvre édifiante des médias américains, notamment ceux de la droite et de la presse jaune et sensationnaliste. Et on a diabolisé ce pauvre type qui, lui, avait confié à ses médecins être mortifié d'avoir peut-être pu infecter des gens à son insu.
Oui.
Et on sait maintenant que le VIH existait depuis bien plus longtemps que sa découverte en 1981, qu'il avait depuis très longtemps fait son entrée sur le territoire américain, et que, d'ailleurs, c'est le livre Aux origines du sida, publié en 2012, en anglais d'abord, par le docteur Jacques Pépin, qui retrace tout ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je suis outré, encore outré aujourd'hui, de la chicane sur la paternité du virus entre l'Américain Gallo et le Robert Gallo et le Français Luc Montagnier, et aussi Françoise Barry-Sinoussi et Arad Sunhausen, alors que des gens mouraient de ça. En tout cas, tout ça s'est réglé. Juste pour vous dire en passant que malheureusement, le pauvre docteur Montagnier a depuis pris un chemin pas mal controversé avec des positions pour le moins discutables sur les virus, dont le coronavirus.
Alors, on part en musique et on continue tout de suite après cette intéressante conversation. Donc, on écoute Sonia Johnson, Jardin d'hiver.
Est-ce qu'elle parle pour rire? Est-ce qu'elle parle de moi? Est-ce qu'elle souhaite tenir? Est-ce qu'elle me montre du doigt? Est-ce qu'elle est l'heure de venir? Est-ce qu'elle est toujours parfois? Est-ce qu'elle est temps de partir? Est-ce qu'elle se penche encore juste comme ça? J'ai toujours évité la question. Y a-t-il un monde à part, une flamme à l'horizon? J'ai toujours évité la question. Y a-t-il un monde à voir, une âme sous les néons? Il y a peu, mais il y a encore les tambours, le tonnerre, une respiration. Il y a peu, mais il y a encore les contours, l'éphémère. Est-ce qu'elle a peur de mourir? Est-ce qu'elle fait jour tout là-bas? Est-ce qu'elle a tout et le pire? Est-ce qu'elle va falloir vraiment cela? Est-ce qu'elle voit l'avenir? Est-ce qu'elle ne me voit pas? Est-ce qu'elle veut se blottir? Est-ce qu'elle se penche encore juste comme ça? J'ai toujours évité la question. Y a-t-il un monde à part, une flamme à l'horizon? J'ai toujours évité la question. Y a-t-il un monde à voir, une âme sous les néons? Il y a peu, mais il y a encore les tambours, le tonnerre, une respiration. Il y a peu, mais il y a encore les contours, l'éphémère. Est-ce qu'elle est l'heure de venir? Est-ce qu'elle est toujours ou parfois? Est-ce qu'elle est temps de partir? Est-ce qu'elle se penche encore juste comme ça?
Alors, on entendra Sonia Johnson un peu plus tard. Et là, c'était Gaëtan Roussel qui nous chantait La Question. Alors, maintenant, reparlons du VIH. C'est pas qu'une maladie physique, hein, c'est aussi une maladie sociale. Ça touche les peuples, mais de façon différente.
Oui, en fait, le VIH fait des ravages dans les pays de l'hémisphère sud, beaucoup, notamment, on parle des pays d'Afrique. Yannick Villedieu relate comment ce continent a été décimé. Dans des villages, là, des enfants se retrouvaient orphelins. Là, les deux parents mouraient du VIH, du sida.
C'est dramatique.
Tu te rappelles, hein, t'as vu les reportages. Puis moi, je suis allé, je l'ai vu sur place, au Rwanda et au Mali. C'est vrai, là, c'était là. Et quand des traitements efficaces sont arrivés, bien évidemment, ce ne sont pas les personnes vivant avec le VIH dans ces pays-là qui ont été les premiers servis. Loin de là. On écoute Yannick.
La question de l'accès aux médicaments, mais ça c'est une histoire vraiment fantastique à raconter. En l'an 2000, quand la première conférence, quand la conférence mondiale sur le sida a lieu pour la première fois dans un pays touché, l'Afrique du Sud, à Durban, les activistes sont dans la rue et disent, avec ce slogan que je trouve vraiment extraordinaire, les patients, alors on est 4 ans après la découverte de la trithérapie qui fait des miracles au fond, qui fait en sorte que les gens vivent. Et donc le slogan c'était les patients sont dans le sud et les médicaments sont dans le nord. Et donc il y a une revendication en 2000 pour dire il faut, il est immoral, injuste, enfin tout ce qu'on peut imaginer que les patients du sud, d'Afrique notamment, n'aient pas accès aux médicaments. Et là, ben, c'est les activistes. 2 ans après, la conférence est à Barcelone, et là, les milieux scientifiques ont dit, oui, on peut, parce qu'on disait, c'est très difficile, les médicaments doivent être pris de façon très 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 précise, dans les pays du Sud, ils n'ont pas de montre, ils ne pourront pas prendre des médicaments là, c'est incroyable. Mais en 2002, le milieu scientifique dit, oui, on peut, puis il y a des preuves, Paul Farmer en Haïti, dans des milieux extrêmement pauvres, montre qu'on peut donner des médicaments et que ça marche. Alors là, les scientifiques sont d'accord avec ça, disent oui, on peut donner la trithérapie dans les pays pauvres, dans les situations où il y a très très peu de services de santé conventionnels. Puis en 2004, ben là, tout le monde, y compris les politiciens, les milieux politiques, donc le Fonds mondial de lutte contre le sida, etc., tout le monde accepte ça. Donc c'est les patients, les activistes qui au départ font une revendication très très forte pour l'accès aux médicaments, et on voit que, bon, encore aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui en a besoin qu'à les médicaments, mais il y a quand même des gros gros changements qui se sont produits grâce à ça.
Alors là, c'est quand même assez surprenant que certains vaccins puissent se développer en un an et que d'autres, pour d'autres, eh ben, 40 ans après, on est toujours en train d'attendre.
Oui, ben alors je sais que tu fais référence.
On peut se poser des questions.
Oui, je sais, Arnaud, que tu fais référence à ce mot que tu ne veux pas prononcer, mais oui, on a trouvé des vaccins en dedans d'un an pour la COVID et on n'est toujours rien 40 ans plus tard pour le VIH. Puis avouons d'abord qu'au départ, le VIH était vu comme une maladie de personnes marginalisées.
Oui, c'est vrai.
Les homosexuels, les utilisateurs et utilisatrices de drogue par injection, clairement, c'est des gens avec lesquels on ne veut pas trop s'acoquiner à l'époque, pour les politiques.
C'est un être humain, avant toute chose.
Oui, ben, je pense qu'on avait des petits problèmes à l'époque de distinguer ça. Alors, c'est clair que l'homophobie, l'intolérance, comme toujours, ça a été un facteur qui a fait que des gouvernements de droite, qui étaient à l'époque au pouvoir, je peux les nommer, Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher au Royaume-Uni, même ici au Canada, Brian Mulroney, disons qu'ils ne se sont pas trop pressés là, pour mettre de l'argent puis sauver ces populations mal-aimées. Pas eu beaucoup d'investissements. Bon, ça a changé depuis. Puis en même temps, quand même aussi, il faut dire que le VIH, c'est vraiment une maladie difficile à cerner. Ah, parce que c'est un rétrovirus qui va s'attaquer au système immunitaire alors qu'on essaie de solliciter le système immunitaire pour combattre le virus. C'est un peu compliqué tout ça. La bonne nouvelle, c'est que la science, c'est cumulatif. Ce qu'on a appris il y a 40 ans, depuis 40 ans sur le VIH, ça a eu un impact sur beaucoup d'autres maladies, beaucoup d'autres virus, dont ce fameux coronavirus qu'on a vécu. Les fameux vaccins ARN messager, bon, ça fait quand même plus de 40 ans qu'on travaille là-dessus, même avant le VIH, mais quand même, ça a été grandement testé pour le VIH, sans succès, mais on a beaucoup appris. Et on peut maintenant se servir de ce qu'on a appris, de là, ces fameux vaccins ARN messager pour la COVID. Et là, ce qu'on apprend sur la COVID est en train de nous peut-être de servir à traiter éventuellement le VIH. La firme Moderna qui a fait des vaccins donc anti-COVID, étudie présentement une éventuelle application de ce qu'elle a appris dans le but de créer ce fameux vaccin contre le VIH.
Et il reste quand même qu'il va falloir gérer tous ces gens-là qui, grâce aux avancées médicales, et tant mieux, enfin tant mieux, ils sont toujours vivants, quoi, qui vieillissent, mais ben qui vivent avec le VIH, donc c'est
des vieux séropos, hein, tu parles de moi, là. Hein?
Ben, je parle de toi et d'autres, mais c'est vrai de toi aussi, oui.
Oui, je blague. En fait, c'est vraiment le prochain défi. C'est le défi actuel du VIH, vieillir avec la maladie. On écoute là-dessus Yannick Villedieu.
Il y a tout ce problème de vieillir avec des médicaments qu'on prend tous les jours depuis des années, mais aussi tout le vieillissement social. Mm-hmm. Quelqu'un me disait, ben, les maisons de retraite, ils n'aiment pas beaucoup les homosexuels, ils n'aiment pas beaucoup les séropositifs. Ils disent qu'ils ne veulent pas de séropositifs, mais peut-être c'est parce qu'ils ne veulent pas d'homosexuels. En tout cas, il y a aussi un problème social qui se pose, qui va se poser de plus en plus. Parce que vieillir, c'est aussi vieillir dans une société. Et on a une société qui est beaucoup plus ouverte qu'il y a 30 ou 40 ans, c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr que tous les obstacles, toute la discrimination soit disparu entièrement. Alors effectivement, il y a vieillir avec des médicaments, mais vieillir avec une maladie qui est quand même marquée. C'est la maladie, le VIH, le sida, ça reste une maladie qui a été marquée comme la maladie, entre autres, des homosexuels. Et c'est ça qui est important, c'est un des beaux défis, mais je pense qu'on est seulement au moment où on commence à le comprendre, à le vivre, et puis les organisations communautaires vont probablement s'occuper de ça, j'imagine.
Ben là, c'est clair qu'à mon âge, Charlotte, j'espère qu'on va s'occuper de ça, puis qu'on va s'occuper de moi quand je vais être rendu là.
Oui.
Mais bon, je dis ça à la blague, mais c'est pas une blague, c'est quand même sérieux.
Faut quand même y faire très attention.
Oui, alors je rappelle le titre du livre, Le deuil et la lumière, une histoire du sida de Yannick Villedieu aux éditions du Boréal, en librairie le 23 novembre 2021.
Alors là, on part en musique avec Sonia Johnson, qui nous chante Jardin d'hiver. Cette fois, on l'écoute.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Do-do-do-do. do de do 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 po do be do do de o
Merci Denis Martin Chabot et puis merci surtout à Yannick Villedieu. C'était, oui. Il était passionné et passionnant, donc je me doute que son livre doit être pareil.
Un invité généreux. Là. C'était génial de jaser avec
lui. C'est ça tout l'intérêt. Mais on va aussi avoir un invité généreux dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'on va parler de la pièce de théâtre Jonathan, la figure du goéland, qui est présentée à la salle Fred Barry. Et c'est écrit et mis en scène par John Lachlan Stewart, qui va être avec nous dans un instant, en deuxième partie d'émission. Puis tu vas voir ce qu'il a fait pour cette pièce et comment il la monte. C'est extraordinaire. Mais je vous laisse la surprise. Restez avec nous, dans un instant, on en parle. Et puis, savoir, la salle Fred Barry, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est la petite salle qui est au théâtre Denise Pelletier.
Tout à fait.
Tu connais ?
Oui, je connais bien.
Tu y es déjà allé ?
Déjà, bon. Oui.
Alors, une dernière fois, le titre du livre?
Le deuil et la lumière de Une histoire du sida, Yannick Villedieu. C'est aux éditions du Boréal. C'est en librairie à compter du 23 novembre.
D'accord. Donc, on n'a pas peur des 300... combien t'as dit?
350 pages à peu près, oui.
Des 350 pages. On les attaque avec bonheur, puisque toi, t'as lu 350 pages en deux jours.
Oui.
En admettant que pour toi, c'est facile, je vais me laisser... 8 jours, mais ça veut dire qu'en 8 jours, on peut le finir.
Ah oui, c'est tellement bien écrit que ça se lit très bien.
D'accord. Bon, alors, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous et dans un instant, on parle théâtre. À tout de suite.
Faramineux avec Arlette Farah.
Dis-le-moi. Je suis désolé, je fais mes bagages, je te fais mes adieux, je tourne la page. Je n'ai plus le temps pour tes culs de sac, abracadabra et tes volte-face. Comme j'ai déjà vu et tout entendu, le même carrousel, les mêmes excuses, c'est toujours pareil. Tu me dis que tu m'aimes, mais les dégâts sont tels que je n'y peux rien.
Alors, on vient d'entendre David Fleury qui nous chantait 27 fois le tour. Et nous sommes avec John Lachlan Stewart. Bonjour, John.
Bonjour, ça va bien?
Mais oui, ça va bien. On a hâte de parler avec vous de cette merveilleuse aventure.
Oui,
John
aussi,
attend
oui.
La figure du goéland. Alors, j'étais en train d'en parler hors antenne avec Denis Martin, qui est notre chroniqueur du jour. Et il était très intéressé aussi par tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est cette pièce et qu'est-ce qu'elle a de spécifique, puisque vous l'avez écrite et mise en scène?
Oui, alors là, on a créé une production un peu inspirée du roman américain de Richard Bach des années 60-70,
oui.
Qui s'appelle Jonathan le Goéland, une parabole qui parle de la liberté, la curiosité, le rébellion d'un
oui.
Part. Et là, dans notre adaptation, on switch ça beaucoup, on déconstruit l'idée des paraboles, l'idée des pièces faites pour des petits-enfants pour faire une leçon, pour nous faire apprendre de la vie, et on reconstruit ça, on questionne là-dessus. Notre pièce, ce qui est très particulier avec notre pièce, c'est le fait que c'est mis en scène avec 6 acteurs en total, et 3 de nos acteurs sont des acteurs danseurs en situation d'handicap physique.
C'est ça qui est fabuleux. Vraiment?
Oui, c'est là qui est particulier. On a pris l'idée dans l'histoire originale qui parle beaucoup de comment le personnage principal perçoit ses propres limites physiques et limites sociales, en fait. Mm-hmm. Ça fait qu'on a pris cette idée, on a voulu jouer un peu avec cette idée d'une façon très concrète. Fait que voilà, c'est un peu ça. Puis, ouais.
Mais c'est ça qui est intéressant parce que,
oui.
parce que de mon point de vue, puisque moi je vais me dater un peu, j'ai lu ce...
Je te rassure, moi aussi je l'ai lu
je
il y a longtemps.
Lu, j'étais très jeune, quand je l'ai lu, puis c'est tellement un beau souvenir,
oui.
Et c'est tellement un livre, je crois, qui est encore d'actualité.
Ah oui, oui.
Mais je reviens sur ce que vous avez, le commentaire que vous avez fait tout à l'heure, c'est que, tu sais, il y a les limites physiques, mais les limites qu'on perçoit nous-mêmes, nos limites, mais il y a les limites sociales. Et
oui.
Là, ça, on rentre dans quelque chose qui est vraiment plus large que les limites que nous, on perçoit de nous-mêmes. C'est celles qu'on nous impose.
Absolument. Mais c'est un peu aussi, je voudrais dire, tu sais, que en fait, une des impulsions qui m'est venue pour vraiment adapter ou attaquer le matériel, c'était vraiment en relisant la pièce dans mes vingtaines et encore dans mes trentaines. Tu sais, ma perspective sur l'histoire, c'est vraiment différent que quand
ben
j'étais
oui.
petit, par exemple, et que finalement, comme beaucoup d'enfants, j'ai pas la meilleure relation avec mon père, et j'ai beaucoup pensé à la passation, l'idée de les générations avant nous qui nous ont passé des problèmes ou passé des idées. Et comment des rebelles comme ce goéland-là essaient de sortir des barrières et des sentiers, comment on dit en français?
Oui, des sentiers battus.
C'est ça, les sentiers battus.
Voilà.
Sortir de ça, mais dans l'histoire originale, si on connaît ce goéland-là, il quitte cette communauté qui a vraiment lui a vraiment maltraité. Mais finalement, il essaie de revenir et un peu rebâtir la relation avec la communauté. Et dans notre production, ça invente ce personnage de père qui existe vraiment comme un genre d'archétype vivant dans la production. Et c'est surtout ça qu'il essaie de réparer dans la pièce. Et quand même, on a quand même tordu un peu le matériel original pour vraiment parler de... que pour moi, l'histoire que j'ai lue quand j'avais 10 ans, qui finit très bien, en fait. Je pense vraiment... l'esprit de on peut tous être libre si on est créatif et si on pense à être nous-mêmes et être créatif, c'est un peu plus compliqué peut-être aujourd'hui, je trouve, avec je connais plus ce mot en anglais, the vision of the world, c'est le
génération.
It's a very divisive time right now. C'est que un groupe qui pense d'une façon, c'est juste qu'un autre groupe pense vraiment de l'autre façon, d'une façon très violente. Et c'est difficile en ce moment. Et notre pièce parle surtout de cette impasse dans laquelle on est en ce moment dans notre société actuelle.
Oui, il y a vraiment une division dans notre monde. Oui, tout à fait.
Oui. On ne devrait pas l'avoir d'ailleurs, parce que respectons la vie de chacun, c'est ça aussi, le fait. Mais quand vous parliez de corporalité, je me disais aussi que en nous-mêmes, bon alors sans être danseur, on n'a pas toujours conscience de notre corps, de la place qu'on tient
Dans la société, tu veux dire?
Non, pas dans la société. Des fois, on n'a pas toujours conscience de notre corps. Des fois, on se voit plus gros ou plus maigre ou plus différent. On n'est pas toujours conscient des limites de notre corps physique.
Oui, absolument.
J'ai vu ça.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'à un moment donné, dans la vie aussi, on est vraiment dans une histoire très parabolique qui parle de grands, grands thèmes de la vie, la liberté, la mort, la vie, la créativité. Ça parle un peu aussi du fait que tout le monde dans la vie, on est un peu limité par la vie, la mort qui nous trouve toujours à un moment donné.
Moment sera là, il sera là. Hein? Il est déjà prévu, donc...
C'est un peu ça, fait que dans tout ça, on vient tous à nos limites. Et dans le contexte d'avoir des artistes en situation handicap avec nous, un côté un peu plus philosophique un peu dans la pièce, c'est que en travaillant avec eux, l'idée d'accessibilité dans la vie et le fait qu'une ville, par exemple la ville de Montréal, est vraiment faite pour du monde avec des corps qu'on appelle des corps typiques ou des corps en santé, qu'on dit, c'est que éventuellement, on n'est tous pas en santé selon la norme, mais on vient tous à nos limites. Fait qu'un côté un peu en dessous de ce qu'on raconte, là, c'est l'idée que la société est vraiment une genre de sentier battu, effectivement, qui est faite pour ceux qui sont en santé, qui sont typiques, et que ceux qui sont atypiques, c'est toujours une lutte pour trouver l'équilibre et la communication avec ceux qui sont typiques.
C'est encore l'histoire de la différence.
Les limites sociales reviennent.
La différence, qu'elle soit physique ou qu'elle soit autre, c'est la difficulté à accepter cette satanée différence, alors que c'est si important de le faire.
Exact. Mais... c'est pas facile, en fait. Fait que dans l'histoire, on travaille ces grands thèmes société avec un S majuscule et on travaille ça vraiment, mais à travers la relation d'un père et le fils, cette idée de parler avec le typique ou parler avec le système établi et exprimé à travers cette relation de père-fils aussi.
Alors, on va reparler dans un instant. On va faire une pause musicale parce qu'on va parler aussi du côté de la danse qui est là, et c'est pas rien non plus. Donc, on part en musique avec Yves Lambert qui nous chante Mon meilleur ami. Et puis, restez avec nous, John. On revient tout de suite après ça.
Ce qu'on préfère dans la vie, c'est de rester bons amis. Même s'il prend tous nos biens, un ami c'est mieux que rien. Marcel t'a pris mon automobile pour aller faire un tour en ville. Tu as été une semaine parti, ça me fait rien, t'es mon meilleur ami. Je t'ai prêté mon pantalon, ça fait un an comme de raison. Si jamais il est fini, ça me fait rien, t'es mon meilleur ami. L'autre matin dans mon jardin, tu m'avais pris tous mes biens, mes tomates pis mes radis, ça me fait rien, t'es mon meilleur ami. Ce qu'on préfère dans la vie, c'est de rester bons amis. Même s'il prend tous nos biens, un ami c'est mieux que rien. Thank you. râle pas trop fort. Souviens-toi de l'hôtel Windsor. Mon portefeuille, tu m'avais pris. Ça me fait rien, t'es mon meilleur ami. À la chasse l'automne dernier, tu coupais l'herbe sous les pieds. Tu tuais toutes mes perdrix. Ça me fait rien, t'es mon meilleur ami. Dans un party l'hiver passé, te souviens-tu ce qui est arrivé? Tu as bu tout mon whisky. Ça me fait rien, t'es mon meilleur ami. Ce qu'on préfère dans la vie, c'est de rester bons amis. Même s'il prend tous nos biens, un ami c'est mieux que rien. Souviens-toi du temps passé, ma fiancée tu m'as volé. Je t'assure que j'étais mal pris. Ça me fait rien, t'es mon meilleur ami. Tu m'as fait perdre mon ouvrage. Je suis sur l'assurance chômage. Je n'ai plus d'économie. Ça me fait rien, t'es mon meilleur ami. Ça me fait rien, t'es mon meilleur ami.
Et voilà, donc on se retrouve avec John Lachlan Stewart. John, toujours là?
Oh oui, toujours là.
Alors on va parler de la danse, parce que la danse, la chorégraphie qui est faite dans cette pièce, dans cette pièce de théâtre, c'est quand même quelque chose. Puis il y a tout un personnage qui est là comme
absolument,
comme chorégraphe.
Oui, notre pièce, en fait, c'est quand même devenu vraiment hybride dans le sens qu'il y a du théâtre, il y a du texte, puis lentement, la pièce se transforme, se déconstruit jusqu'au point qu'il n'y a finalement pas de mots, juste du mouvement, de la danse. Notre chorégraphe, il s'appelle Luca Patelli, il s'appelle Lazy Legs Luca, c'est un breaker très, très connu au monde.
Oui.
C'est juste sur l'émission Revolutions, c'est un breaker qui... je ne sais pas vraiment comment dire ça en français. Il y a
une imitation de
mouvement dans ses jambes. Et, il bouge dans la vie avec deux béquilles. C'est quand même incroyable ce qu'il fait. Il y a des monstres de bras qu'il peut utiliser. Il y a beaucoup de moves vraiment incroyables. Puis c'est notre chorégraphe. Puis il joue aussi dans la pièce. Et effectivement, il y a plein de moments dans la pièce où on met l'emphase sur le mouvement pour exprimer au lieu des mots, parce que c'est ces corps-là qu'on voit très, très, très peu au théâtre. Ils parlent d'une façon unique qu'on n'a pas beaucoup de chance à voir au théâtre d'habitude. Fait que on pense vraiment que c'est un moment particulier à voir en ce moment sur scène.
Alors ça, c'est absolument fascinant, parce que j'étais en train de penser que quand on reçoit les informations, on a aussi accès à certaines vidéos et répétitions, y compris avec certains des artistes et comédiens qui ont un handicap physique. J'ai regardé ces vidéos, j'étais soufflée.
Oui.
D'admiration.
Oui, c'est quand même unique. Puis mettons que quand on imagine une production de Jonathan Gwilan, où on pense à comment mettre en scène le vol, par exemple, ou ce personnage-là qui vole d'une façon extraordinaire, on saute immédiatement à l'impulsion de on pourrait faire ça avec des artistes de cirque, ou ça pourrait être vraiment des acrobaties.
Ah oui, complètement.
Mais finalement, c'est l'esprit du livre qui ont... On connaît tout ça si on a lu des histoires de mime quand on était petit. C'est l'esprit du personnage et l'esprit de s'envoler ou de trouver notre propre créativité. N'importe quel corps ou n'importe quelle personne qu'on est, on sait c'est quoi. Et on est plus dans l'abstraction du vol et que le mouvement. Il y a des fois où le mouvement est... on est quasiment au cirque. Et il y a d'autres fois où juste le fait de... voir les corps sur scène bouger avec l'aide de nos prothèses, des béquilles, tout ça, c'est quelque chose de très unique qui parle de quelque chose de très grand à l'intérieur de nous tous. C'est vraiment une histoire pour moi qui est au même niveau de... je veux dire, c'est une pièce américaine, mais au même niveau de quelque chose comme Le Petit Prince.
Ou ah oui, oui, aussi fort.
C'est une grande histoire qui continue à nous toucher et avoir une résonance différente à travers
et en temps. Plus, juste avant que tu poses ta question, en plus, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la pièce est présentée de façon bilingue aussi.
Ah bon?
Oui.
Absolument, voilà, je suis un anglophone, tu peux probablement entendre, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est le fait que les artistes qu'on a castés pour cette pièce, c'est très difficile de trouver les bonnes artistes vivant en handicap physique. Tu sais,
oui.
C'est devenu un concept très important pour nous, c'est qu'on voulait chercher des artistes en situation de handicap. Puis ça finissait que tout le monde qu'on trouvait était de Toronto et parlait zéro français.
Ah oui, d'accord. Donc,
le choix était très clair. Donc ici à Montréal, il y a toujours des compagnies comme Corpuscule Danse qu'on trouve des artistes francophones en situation de handicap, mais je trouve que, en tout cas, il y en a sûrement beaucoup que j'ai pas trouvé, mais ça, pour moi, ça raconte une histoire intéressante de comment, en tant qu'artiste typique, moi j'ai un corps typique, j'ai la trouble à trouver c'est où cette communauté, puis les donner la visibilité. Donc ils sont the visibility they deserve, tu sais que voilà, ça finit que c'est une pièce mélangée avec beaucoup de choses, beaucoup de corps, beaucoup de genres de personnes différentes sur scène aussi, avec plein d'accents différents, une francophone qui est un peu notre porte d'entrée pour les publics québécois, qui est quand même présent, qui est quand même beaucoup de Québécois dans la pièce. Mais que voilà, c'est un mélange de plein d'identités, d'accents, de perspectives différentes.
Ben c'est ça, hein, le lien. C'est à partir de ce moment-là que les différences sont acceptées. Si elles sont acceptées sur scène, elles peuvent être acceptées dehors. Enfin, du moins, j'espère.
Absolument. Mais aussi, ce qui m'intéresse aussi, je comprends, tu sais, le fait que de l'anglais sur scène, d'autres choses sur scène, je sais qu'en anglais, au Canada anglais, on voit des productions d'ailleurs aussi avec des sorties. C'est pas la meilleure, c'est pas toujours le fun. C'est difficile d'aller à l'encontre d'aller voir quelque chose qui n'est pas familier, tu sais.
Oui.
Mais moi, je m'intéresse au clash là-dedans et aux contradictions, à la difficulté de percevoir ou de comprendre et d'écouter ces difficultés-là. Je trouve dans ma carrière que ça m'intéresse du moment où quelque chose est difficile à entendre ou à comprendre, fait qu'on est we lean in on our chair, on go ah qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui se passe là, puis on espère de créer quelque chose qui peut être intéressant et bizarre à plein de personnes en fait, puis on les invite à nous voir.
OK. Une dernière question.
En fait, juste un petit commentaire. On parle des limitations. Bien évidemment, la limitation de la langue, ça peut être...
Oui.
Et on sait qu'il y a des gens qui viennent au Québec et qui ne parlent pas nécessairement français. Et la limitation de la langue devient aussi une limite qui leur est imposée, qu'elles vivent. J'aimerais revenir sur l'esprit de ce... Deux petites minutes, je vais aller très rapidement. L'esprit de Jonathan Livingston, le goéland, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voici un livre américain qui ne parle pas du rêve américain. Pas du tout du rêve américain, mais qui parle beaucoup de comment tu te sors, toi, de tes limites et par là, par ton esprit, par ton corps, parce que tu es libre. Même c'est quand tu ne l'es pas, tu peux trouver ta liberté.
Voilà.
Absolument, je pense que c'était quand même un roman très important dans son temps aussi, mais toujours aujourd'hui aussi, mais on s'entend que je trouve que ce roman-là, ça fait partie d'un mouvement de littérature, de films, d'histoire qui parle un peu de notre force intérieure, ce qui est fait à peu près proche
de ce qu'on est capable
où on était dans Star Wars, on était dans les histoires mythologiques de jeunes jeunes garçons qui étaient tout seuls, qui trouvaient sa créativité ou sa force ou son identité dans toutes sortes de guerres qui se passaient vraiment au milieu de Vietnam que cette histoire était créée.
Je pense que cette pièce, il va faire bon d'aller la voir et puis de se redonner du courage à travers ça, parce que là, on arrive à la fin de l'entrevue, John.
Il faut
simplement rappeler que la figure du goéland sera présentée, donc je le répète, à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier du 23 novembre au 11 décembre. On vous souhaite le meilleur et merci beaucoup pour tout ça. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
Je vous remercie maintenant et merci beaucoup.
Bonne continuation. À bientôt.
À bientôt.
Bye.
Au revoir.
Au revoir.
Au-delà de la mer où il n'y a pas d'hiver, J'ai visité un village imaginaire où habite une fille nommée Mainé, qui pour rire et chanter est vraiment douée. Au village, tout le monde veut la marier, mais elle ne se laissera pas amadouer. Elle est belle, elle est fière, elle ne veut que jouer avec les panthères sous les cocotiers.
Dominique Primo, Paul Mallette, qui nous chantait Mainé. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Denis Martin, c'était ce qu'on était en train de se dire il y a un instant. Ça passe très, très vite parce qu'on aurait bien gardé John Laclan Stewart encore un petit peu
oui,
plus longtemps.
Il y avait beaucoup de choses à explorer. Avait, oui.
Oui, tout à fait. Mais on a fait au mieux qu'on peut. En tout cas, ne ratez pas cette pièce de théâtre qui va se passer du 23 novembre au 11 décembre à la salle Fred Barry. Et je te remercie, toi. Mais d'être venu
merci,
et puis
oui.
de nous avoir présenté Yannick Villedieu. Je le connaissais pas, donc je suis heureuse d'avoir fait la connaissance de cet homme-là. Et puis, on répète le nom de son livre.
Oui, Le deuil et la lumière, une histoire du sida, Yannick Villedieu aux éditions du Boréal. Et c'est en librairie à compter du 23 novembre. Ça s'en vient.
23 novembre, oui, effectivement.
La semaine prochaine.
C'est tout bientôt.
Oui.
Et pareil, bah, c'est aussi le 23 novembre, le début de la pièce.
Oui.
Alors, vous pouvez à la fois acheter le livre pour chez vous et aller à la pièce de théâtre à la salle Fred Barry du théâtre Denis Pelletier. Voilà. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci Maurice Bolduc pour les musiques. Et puis, on se dit à demain.
Hein?
Et puis, à demain, si vous le voulez bien. Et soyez avec nous, on aura encore d'autres beaux invités. Merci à vous tous. Au revoir.